Et donc, vous vous souvenez, il y avait deux grandes parties. Une partie sur le livre de la nature, qui fait beaucoup référence à la philosophie médiévale, enfin, philosophie, théologie médiévale. Peut-être avec pour vous un certain nombre de découvertes. Parce que c'est une pensée, en effet. Alors, j'ai fait toute cette partie pour bien montrer que Laudato Si n'est pas une sorte de phénomène mondain. Vous voyez, c'est pas parce que c'est à la mode que tout d'un coup, ça apparaît dans le vocabulaire de l'Église. Au contraire, c'est une vraie grande tradition, comme vous l'avez bien compris, hein. Et donc, je présente cinq auteurs, mais il y en aurait encore une dizaine d'autres, et on aurait pu remonter plus haut dans ce qu'on appelle la patrologie. Mais donc, je me suis contenté de la période médiévale, puisque c'est celle que je connais le mieux. Alors, dans la période médiévale, j'ai distingué deux groupes de messieurs avec une dame, et ensuite un cinquième personnage qui est Isaac de l'Étoile. J'ai fait deux introductions importantes, mais bon, ça, on va passer. Est-ce que vous avez sur cette première série de personnages, c'est-à-dire Saint François et Saint Bernard, est-ce que vous avez des remarques, des observations, des questions? Et vous avez vu évidemment que s'ils ont un point en commun qui est la quête de la frugalité, ça n'est pas avec le même esprit, et du coup, ça n'induit pas du tout la même idée de la nature. C'est ça qui est très intéressant. En fait, c'est les visions vraiment anthropologiques qui nous donnent une vision cosmologique. Voilà, donc Saint François, Saint Bernard. Saint Bernard, peut-être que vous ignoriez tout ça, mais Saint François, quand même, je pense que c'est assez connu. Alors, allez-y, si quelqu'un veut se lancer.
Donc moi je en fait quand on est en histoire, enfin je me rappelle mes souvenirs d'enfance, mais quand on est en histoire et qu'on parle de Cluny, parce que vous avez parlé de Cluny, on nous décrit ça comme l'âge d'or, le truc merveilleux du Moyen Âge, où ils ont tout compris comment il fallait faire. Et en fait, bon, à partir de ce que vous expliquez, c'est vraiment une vision de la nature et de la relation de l'homme au monde, à la société, qui est pas très ajustée. En fait, finalement,
Oui,
et
oui,
qui se rapproche plus, et vous le disiez à la fin, qui se rapproche plus d'une relation seigneur, enfin, domaine seigneurial, quoi, qui
Ah
finalement vivent sur leur rente et tout, quoi.
oui. Alors, en fait, il y a eu tous ces ordres, hein, Cluny, donc il y a eu Cluny 1, 2 et 3, avec des énormes chantiers les uns après les autres. Cluny 3, c'était incontestablement la puissance de l'Europe. Puissance politique, puissance économique, puissance d'ingénierie. À Cluny, il y avait toutes les grandes écoles réunies, toutes les écoles d'ingénieurs et tous les laboratoires de recherche. Et c'était en plus une forteresse capitaliste. Parce que, je vous ai expliqué, il y avait une espèce de système pyramidal. Et heureusement, ce sont des saints qui ont été à la tête de Cluny. Parce qu'ils auraient pu, s'ils avaient voulu, renverser n'importe quel roi et prendre leur place, ou nommer les rois. Enfin bon, c'était le pouvoir de l'époque. Hein. Sauf qu'on a eu des saints. Odilon, Saint-Pierre le Vénérable. Enfin, vous voyez, et alors, l'intérêt de ces personnages, c'est qu'ils ont tous eu une longévité incroyable. Saint-Pierre le Vénérable a été père abbé 40 ans. Et c'est incroyable, quoi. Comme Louis XIV, comme Soliman le Magnifique. Alors évidemment, ça laisse le temps pour quelqu'un de génial, d'imprimer son époque. Et ils en ont eu cinq de suite, comme ça. Avec Odon, Odilon, enfin, je me souviens plus de la série. Hein. Mais c'est considérable. Alors, inconvénient, c'est que c'est un système jacobin. Enfin, jacobin, c'est un anachronisme, hein, de dire ça. On pourrait dire que c'est un système macronien. Mais Macron s'en est rendu compte, vous voyez, qu'il fallait pas que tout descende du sommet de la pyramide, alors qu'à Cluny, c'était un système qui s'imposait, qui faisait sortir du monde féodal, et donc on s'y engouffrait avec enthousiasme. D'autant qu'il y avait une énorme efficacité du point de vue économique et du point de vue de la culture. La culture avec les livres, mais aussi l'agriculture. Alors que, sitôt, Et donc, Cluny n'a pas de rapport mauvais avec la nature. Sauf que la nature, disons, est exploitée et rentabilisée. Alors que Cito, grâce à son système économique, n'a pas du tout le même égard par rapport à la nature. Puisque quand une abbaye est fondée, 2-3 ans après, elle est autonome. Donc, il n'y a pas de système centralisé. Ce qui veut donc dire que c'est une économie locale. Alors que Cluny, parfois, ils avaient des prieurés qui rapportaient de l'argent à 500 km de là. Donc, vous voyez, c'est... Et en effet, c'est quelque chose de très important. Hein. L'histoire de Cluny, Cito. Pour la petite histoire, vous savez qu'ils se partagent férocement les cépages de Bourgogne. Je ne sais pas si vous saviez ça. Le Clos Vougeot, par exemple, le Clos Vougeot est une parcelle clunisienne, une parcelle cistercienne en plein territoire clunisien. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont clos de murs. D'où l'expression Clos Vougeot. Voilà, vous voyez, c'est des petites histoires. Ça. En fait, les moines de cette époque, hein, Cluny, Cito, ils ont tout fait. C'est-à-dire, l'Europe, tout simplement, ne serait pas ce qu'elle est s'il n'avait pas été là. Moi, je le dis à un moment dans le cours, hein, c'est l'Europe agricole et l'Europe viticole qui s'édifient à ce moment-là. Puis on sort surtout du domaine féodal. Hein. Alors, inconvénient, donc, c'est qu'il n'y a plus de véritable autorité en France. Il y a des rois, il y a des ducs. Et donc, ceux qui tiennent, ceux qui font office de seigneur, ce sont les abbés et bientôt les évêques. Et du coup, ils s'enrichissent. C'est une tentation du pouvoir. Hein. C'est de s'enrichir et de montrer qu'on a de l'argent. Et évidemment, ça a créé des bugs. Quoi. Au XIVe siècle, les carottes sont cuites. Hein. Bon, voilà.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Vous m'entendez ?
Ouais. Oui.
J'ai une question sur la... Entre Saint-François et Saint-Bernard, vous parlez de sobriété heureuse et d'heureuse sobriété.
Oui.
J'aimerais bien que vous développiez ça. Et puis, quand vous parlez de l'ordre cistercien, je trouve qu'il y a une tension entre cette richesse globale de l'ordre, cette sécurité matérielle que peuvent avoir les moines de vivre dans une communauté riche, et en même temps cette sobriété et ce vœu de pauvreté auquel ils sont invités. Oui. Moi, ça m'a toujours vraiment étonné.
Oui, c'est très étonnant. Hein.
Voilà, quelle compatibilité entre un vœu de pauvreté et une richesse de la communauté dans laquelle on est.
Alors, en fait, là, d'abord, les cisterciens, disons. Alors, je vais d'abord répondre à la première question. Heureuse frugalité et frugalité heureuse. La nuance est très intéressante parce que heureuse frugalité, ça veut dire qu'au total, ça va nous faire du bien. C'est-à-dire, au total, on va y gagner. Mais la frugalité comme telle n'est pas vécue de manière heureuse, réjouie, joyeuse. Mais ils savent que par la frugalité, ils vont obtenir ce qu'ils veulent, à savoir la sanctification des individus dans un combat avec la nature quand elle est désordonnée. Donc voilà, ça c'est l'heureuse frugalité. Alors que la frugalité heureuse, c'est que la frugalité produit du bonheur. Mmh. Celle de Saint-François. Mmh. Donc voilà, ça c'est la première question. Ensuite, la seconde sur l'enrichissement. Les abbayes ont un vrai problème, toutes les abbayes, hein, et même Saint-François va connaître ce problème, c'est que ce sont des gens intelligents en général, qui travaillent bien, ce sont les meilleurs travailleurs de leur époque, ce sont les meilleurs ingénieurs de leur époque, donc 11e, 12e, 13e, et donc ils produisent mieux que tout le monde. Et en plus, ils ne sont pas payés. Donc très rapidement, c'est le collectif qui devient une puissance incroyable et qui a beaucoup d'argent. Alors évidemment, cet argent, l'ordre de Cito le redistribue avec des économies locales, alors que l'ordre de Cluny le capitalise. Donc voilà, c'est ça, là, vous voyez. Alors, ça va produire ce que ça doit produire, C'est-à-dire 2 siècles après, tout ça sera pourri. Voilà, c'est comme toujours. Hein. L'intuition de Bernard était juste, c'est-à-dire dès que vous êtes riche, il faut foutre le camp. Il faut revenir à la pauvreté. Mais ça n'a pas tenu plus de 2 siècles. Ça, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui. En termes de développement durable, c'est pas si mal.
Ah ouais.
Merci.
Donc voilà. Il y a d'autres questions, Saint-François, Saint-Bernard ? Saint-François, vous connaissiez. Hein.
Moi, je voulais poser une question qui est plutôt une réflexion.
Oui.
Quand je pense justement à des abbayes ou aux ordres créés par Saint-François ou Saint-Bernard, j'ai un peu du mal à penser qu'ils ne sont pas des ancêtres des écologues, des écologistes, parce qu'ils n'exploitent pas la terre, ils la font fructifier, mais à mon image, je ne les vois pas rentrant dans quelque chose qui serait un excès de travail de la terre en la laissant pauvre, puisqu'ils respectent les règles de la jachère, les règles de la mise au repos, pour justement faire en sorte que la terre produise, mais ne soit pas épuisée. Donc, moi, je les voyais plutôt comme des références à quelque chose qui pourrait nous servir dans la manière de groupes qui utilisent la terre sans l'épuiser et qui sont là pour un but qui est de nourrir eux autour d'eux. Donc, peut-être que je me trompe.
Non, c'est bien ça. Hein. Alors, c'est naturel à l'époque, si j'ose dire, c'est le cas de le dire. C'est naturel à l'époque jusqu'à la période Renaissance. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, le moindre paysan se comporte comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire, il sait qu'il faut s'allier à la nature et non pas la contraindre. Et tout le monde le sait à l'époque. Hein. Ouais. Mais avec la Renaissance, comme on va connaître les lois de la nature, les connaissant, on s'imagine qu'on en est les maîtres. Et donc, on va modifier les lois de la nature et là, le fruit commence à être pourri. Et ça va donner en quelques siècles ce que nous voyons maintenant. Alors qu'à l'époque, en effet, la paysannerie et donc les moines étaient extraordinairement respectueux de la matière qu'ils travaillaient. Et certains même, je l'ai exprimé surtout avec les deux suivants, hein, Hildegarde et Bonaventure, comprennent que la terre veut produire du fruit.
Oui, c'est ça.
Et donc, nous sommes en quelque sorte ceux qui vont aider la terre à accomplir ce qu'elle veut. Ça, c'est très étrange, hein, c'est tout à fait intéressant.
Merci.
Si vous voulez, on peut passer au second, hein, c'est-à-dire le second groupe, c'est Hildegarde von Bingen et Bonaventure, que j'ai mis sous l'intitulé « Jouir du monde ».
C'est la meilleure, Hildegarde von Bingen.
Ah, elle est pas mal.
Ordinaire.
Elle est pas mal.
La musique, enfin, ce que vous nous avez dit, à savoir la musique cosmique, musique de l'âme et musique instrumentale, tout est lié dans ces trois musiques. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. C'est juste une réflexion, ce n'est pas une question. C'est ce qui ressort dans tout ce que vous nous dites. Je trouve que c'est ce qui est une des plus belles choses.
Oui, c'est ce qu'on appelle… Ça date de l'époque carolingienne. Hein.
Oui.
Alcuin, celui qui était à Orléans, là, Théodulf, etc., baignait dans cette idée… ce qu'on appelle le pancalisme, quand on veut faire le savant, ou si vous voulez, les harmonies générales. C'est-à-dire, tout est beau, parce que tout est régi par les mêmes lois d'harmonie. Et donc, l'architecture a les mêmes lois de proportion et d'harmonie que la musique. La musique a les mêmes lois de proportion et d'harmonie que le jardin. Le jardin a les mêmes lois de proportion et d'harmonie que le corps humain. Donc, vous pouvez soigner le corps humain avec la musique. Le corps humain peut soigner le jardin. Vous pouvez lire l'architecture et être en harmonie corporellement avec l'architecture, etc. Et c'est absolument fabuleux. C'est un système complètement génial qui est né dans la pensée carolingienne. C'est fantastique, ça. Alors, en effet, il y avait de la musicothérapie. C'est la raison pour laquelle Hildegarde von Bingen écrit de la musique aussi. comme elle fait de la pharmacopée. La pharmacopée, vous voyez ce que c'est de la pharmacie. Hein. Mais la pharmacie à partir de plantes. Et elle, quand elle fait de la pharmacie à partir de plantes, par exemple, elle explique comment on fait une soupe d'ortie, elle dit que à l'origine, au paradis, tout se faisait, tous les êtres se faisaient mutuellement du bien. Et donc, l'ortie soigne le cervidé. Le cervidé prend soin des arbres, broute les mauvaises herbes, prend soin des arbres. Nous, les hommes, nous utilisons les arbres. Enfin, vous voyez, il y a une espèce d'harmonie complète, quoi, un cycle harmonieux complètement total. C'est vraiment fantastique. Et donc, elle a également écrit la recette d'une bière. Page 24.
J'ai pas encore testé.
Ah, ça vaut la peine. Hein. Elle est française, donc. Hein. Elle est de la région de Lille. Elle est très bonne. Il y en a trois sortes. Alors, bonne aventure, après. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment l'intello de la bande. Il est très important. Et il est revenu au goût du jour depuis maintenant un petit siècle. Mais surtout depuis Ratzinger. Parce que Ratzinger a fait sa thèse sur Bonaventure, et non pas sur saint Thomas d'Aquin. Et à l'époque, c'était très innovant. C'est-à-dire, il n'est pas thomiste. Il préfère être du côté de saint Bonaventure. Ils sont strictement de la même époque et ils fonctionnent de la même manière. Mais l'un fait appel à l'intelligence du sensible et l'autre n'a aucune esthétique sensible. Saint Thomas. Saint Thomas n'est pas sensible, quoi. Alors que Bonaventure, oui. Ben, il est franciscain, hein, Bonaventure. Il n'a pas eu la carrière intellectuelle de Saint Thomas parce qu'il est devenu supérieur de l'ordre. Il est mort à Cologne, où il y a une église qui lui est dédiée, à côté de la cathédrale. Si vous allez à Cologne.
C'est pas lui qui a fait la biographie de François aussi ?
Alors, il l'a probablement corrigé, mais c'est surtout un intermédiaire entre Bonaventure et François, dont j'ai oublié le nom, qui a compilé. Vous savez ce qu'on appelle les Fioretti. Et à partir de là, on a écrit, Saint Bonaventure a écrit une partie, mais en fait, les compilations étaient déjà faites. Lui, il a demandé que la biographie soit un peu moins merveilleuse. Et du coup, il a fait témoigner des franciscains, non pas sur les côtés merveilleux de Saint François, qui parle aux petits oiseaux, les loups lui obéissent, mais le côté frugal, sainteté, prière, etc. Bonaventure, voilà, donc c'est très...
Moi, j'ai une question sur Bonaventure, pardon. Oui. Il y a quelque chose que j'ai absolument pas compris, une phrase que vous avez dite,
ouais.
Sur la création continuée.
Ah, très intéressant.
Et là, je comprends les mots, pas la phrase.
Ok, alors ça, c'est très, très important parce que saint Thomas est d'accord avec lui là-dessus, hein. D'ailleurs, l'expression « création continuée » ou « création maintenue » est de saint Thomas. Mais ils sont d'accord complètement, c'est-à-dire, ils pensent, et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui la pensée de l'Église, que Dieu crée. Dieu n'est pas le créateur jadis, mais qu'il crée, il continue à créer. C'est-à-dire que son œuvre de création continue à maintenir le monde. Voilà. Et s'il ne maintenait pas le monde retournerait au chaos, au désordre, au tohu-bohu. Et donc, c'est ce qu'on appelle la création continuée. Et à cette création continuée, nous devons joindre nos énergies, notre travail et notre vertu. Alors, ça va être, ça aurait pu être très intéressant quelques siècles après, mais on l'a oublié, quand est venu à la Renaissance et le siècle des grandes découvertes qui a suivi, donc 16e, 17e, puis le siècle des Lumières, où là, l'Église s'est laissée emporter dans un débat qui n'était pas le sien, puisque les sciences à ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrophysique, découvrait la question de l'origine du monde, et l'Église, par peur qu'on dise le contraire que ce qui était écrit dans la Bible, a voulu répondre à cette question de l'origine du monde. Or, sa grande question et sa grande théologie à l'Église, c'est pas l'origine du monde, mais c'est le monde, la création continuée. C'est pas comment Dieu a créé jadis, mais comment Dieu crée aujourd'hui. Et là, on s'est fourvoyé. On s'est fourvoyé avec la querelle. D'ailleurs, on a été dans des impasses. Hein. La querelle de Galilée, tous ces trucs-là, ce sont des impasses pour l'Église. Parce qu'elle s'est laissée emporter dans cette question qui n'était pas la sienne. Et donc, du coup, la théorie de la création continue revient également depuis maintenant un siècle, comme étant une grande ligne directrice de la pensée de l'Église. C'est-à-dire, Dieu n'a pas créé, puis se serait retiré. Et c'est Hölderlin, un poète allemand, hein, qui, entre les deux guerres, s'interroge, où il est dit « Dieu a créé le monde comme la mer crée le rivage en se retirant. » Et lui, ça l'interrogeait. Il disait « Mais c'est pas possible. » Et c'est là que les chrétiens ont dit « Bah oui, en effet, Dieu s'est pas retiré. Il est toujours là. Et il est toujours créateur. » Donc voilà, et là, on est revenu à la théorie de la création continuée, qui était donc une ligne directrice chez Saint Bonaventure pour comprendre le rapport à la nature. Donc c'est après, vous savez, que je vous mets ces trois mots. L'homme est donc chargé d'être guetteur, gardien et pontife. Ça, c'est magnifique. Hein.
Mais pontife, vous l'entendez comme le souverain pontife ?
Non, comme le prêtre.
Oui, c'est ça.
Comme le prêtre, celui qui laisse monter la louange des choses.
Voilà. Moi, je voulais dire que je trouvais que c'était étonnamment moderne comme pensée.
Ah bah ouais.
De voir le rôle de l'homme comme ça, c'est extraordinaire en fait.
Ah oui, oui. Moi, je crois en effet que c'est la plus haute tradition de l'Église et on n'aurait jamais dû l'oublier. Quoi.
Oui, oui.
Saint Paul le dit déjà.
Oui, Saint Paul, chapitre 8 des Romains.
Voilà. Oui,
bien sûr.
La création est dans les douleurs de l'enfantement, donc elle est toujours en création.
C'est ça. Et elle attend, la création attend que les fils d'hommes deviennent fils de Dieu.
Oui, absolument.
Et le jour où les fils d'hommes seront fils de Dieu, elle sait qu'elle sera libérée. C'est fantastique.
Ah oui.
D'ailleurs, c'est cité par le pape François, mais il s'y attarde pas. C'est assez curieux, il ne développe pas de commentaires là-dessus. Alors que Genèse, chapitre 1, il avait pas mal débattu.
Ouais. Et on entend aussi beaucoup dire que l'homme est co-créateur aussi dans cette
création. Oui, voilà, très bien.
Ouais. Et qu'il participe, enfin…
Exactement. C'est un peu dans la même lignée, c'est la conséquence de l'idée de création continuée.
C'est ça,
c'est dans la même lignée. Donc, on est co-créateur par la vigilance, mais aussi par notre travail. Théard de Chardin, vous voyez, il est complètement dans cette idée de l'homme co-créateur.
Si ce n'est que dans la notion de co-créateur, on peut parfois comprendre que justement Dieu se serait retiré pour laisser la main uniquement à l'homme.
Oui.
Qui dans ce cas-là serait plutôt une création continuée par l'homme après la première faite par Dieu, ce qui n'est pas la même chose que l'idée de la création continuée qui est Dieu continue à créer à travers nos mains, y compris. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais quand on dit co, ça veut dire qu'il continue avec nous.
Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, Hildegard de Bingen le dit assez clairement avec sa notion de l'Éden. Parce qu'elle va chercher, vous savez, dans les arbres, dans les animaux, la pharmacopée, elle va chercher les traces du paradis. Parce que pour elle, le paradis est toujours là. Alors, il est évidemment très empoussiéré, très recouvert de gravats, mais c'est pas le chaos qui est derrière, c'est le paradis. Et c'est la raison pour laquelle, quand elle tire sur une rhubarbe, elle croit sincèrement que, parce que la rhubarbe fait du bien, je sais plus ce qu'elle fait, hein, elle croit sincèrement que c'est un reste du paradis. Et donc, si elle retrouve les séquelles du paradis, ça veut donc dire qu'il est toujours là. Et qu'il maintient toujours le monde. Oui, c'est une vision très optimiste de la nature. Il y avait trois ou quatre femmes hein, de son genre à la même époque. Il y en a une assez connue, mais j'ai oublié son nom, qui était abbesse du Mont Saint-Odile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et elle a fait un peu le même type de théorie. Elle a écrit un gros bouquin qui s'appelle Hortus Clausus, le jardin clos. Et elle voit les techniques de ce monde comme les émergences du paradis. Par exemple, le fait que l'eau qui court permette de faire tourner des roues. Et la roue permet d'irriguer. Et ça, elle dit, c'est le reste du paradis. Quand l'eau voulait faire du bien au paysage, c'est très étonnant. Et donc, c'est des visions très, très poétiques et très optimistes qu'on n'aurait jamais dû oublier. Donc voilà, ça, c'était
Bonaventure. Quand Hildegard, finalement, donne tout un tas de conseils de pharmacopée, oui. Est-ce qu'elle utilise une tradition qui est déjà très forte à ce moment-là ou est-ce qu'elle innove vraiment dans ce domaine-là ?
Non, on a des recueils, en effet. On a plusieurs recueils de recettes qui remonte, alors là, il y en a même qui remonte aux Grecs, hein, qu'on a emprunté aux philosophes grecs, aux médecins grecs. Et il y avait donc des recueils, on avait repéré qu'un certain nombre de plantes faisaient du bien. On avait repéré également qu'un certain nombre de plantes étaient toxiques pour les animaux. Et donc, tout ça a été noté. On savait quand même pas mal de choses. On était très observateurs de la nature. C'était la première introduction du cours hein, où j'explique qu'à l'époque, les gens s'intéressent à la nature, pas forcément pour l'exploiter, mais parce qu'ils savent que dans la nature, ils vont découvrir les lois de l'équilibre. C'est une très belle sagesse. Hein. Et donc, ils avaient collectionné un grand nombre d'observations. Par exemple, ils savaient que le chevreuil est ivre quand il mange des fougères. Et ils avaient découvert que le chevreuil aime se bourrer la gueule tous les samedis soirs. C'est très drôle. C'est très drôle.
Merci.
Alors ensuite, il y a Isaac de l'Étoile. Alors ça, c'est un sacré personnage. Vous vous souvenez, hein, c'est là où j'explique un des sermons. Il est cistercien. Hein. Donc, beaucoup, beaucoup de soins pour l'agriculture. Alors, vous vous souvenez, j'avais expliqué le livre avec une structure d'emboîtement. Au milieu, en haut, tout en haut, il y a ce qu'il appelle les livres obscurs, c'est-à-dire l'intelligence de Dieu, mais l'intelligence humaine peut accéder à quelque chose de l'intelligence de Dieu. Vous vous souvenez, je vous avais montré une sculpture qu'on trouve en Arménie. Vous vous souvenez de ça ? Une sculpture tout à fait étonnante, un tympan, où on voit, vous savez, le créateur qui tient dans sa main une tête d'homme. Vous vous souvenez ? C'est une image fabuleuse, hein, fabuleuse. Et entre les deux, on voit l'esprit. L'esprit qui descend sur l'homme et de l'intelligence de l'homme, un petit esprit qui monte vers Dieu. Ça veut dire donc que l'intelligence de l'homme permet d'accéder à l'intelligence de Dieu. Waouh, ça c'est. Mais ça reste obscur, dit-il. Et alors, il met en réponse à ça, donc ça c'est 1 et 2, premier livre, deuxième livre, il met en réponse à ça, en écho, le cinquième et le sixième, qui sont l'évangile. L'évangile que nous lisons, qu'on entend pendant la messe, et la liturgie. Alors là, pour le coup, c'est pas obscur, c'est sensible. Et entre les deux, au cœur, il dit ça c'est pour tout le monde, c'est un livre à la fois obscur, à la fois lumineux, la nature et son explication. Et donc, la nature devient pour lui pratiquement le premier pédagogue. C'est fabuleux, hein, ça, Isaac de l'Étoile. Là, j'avais mis de très belles photos.
Justement, je voulais juste vous poser une petite question. Ça
marche ? Ouais.
Parce que j'ai essayé de voir la particularité justement de ce que pourquoi vous l'aviez rajouté hein, aux autres auteurs.
Oui.
Et si je résume, hein, bien sûr, hein, c'est le sensible développe l'intelligence et inversement. Est-ce oui. que c'est ça son idée principale ou pas?
C'est pas son idée principale, mais c'est une des très bonnes idées qu'il avait. Absolument.
Et son idée principale, c'est laquelle alors?
C'est que la nature est lisible.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça sa grande idée. Il parle d'un livre de la nature. Mais il faut, pour le lire, il faut apprendre à lire. Et c'est là où il dit, si tu ne comprends pas, apprends au moins d'un autre. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas dans la nature pourquoi elle est belle, pourquoi elle nous sauve, pourquoi elle est généreuse, eh ben, renseigne-toi. Ouais. Et donc, en effet, il y a entre l'intelligence de celui qui va enseigner et la sensibilité de celui qui est affecté par la beauté de la nature, il y a une communion, une information mutuelle même. C'est remarquable. C'est très... Saint François aurait pu dire ça.
Oui.
Mais c'est un cistercien.
Merci.
Voilà, c'est bon. On peut passer au document 3. Document 3, je passe à un autre sujet. Hein, c'est le thème de la liturgie, au sens très large, hein, comme vous l'avez vu. Et donc là, je développe deux textes que le pape François cite. L'histoire de la dégradation du cosmos qui se ferme, qui devient hostile à l'homme à cause du meurtre, et Romains 8, dont on a déjà parlé. Et donc, c'est ça la liturgie cosmique. Et donc, je vous explique le premier meurtre avec la dégradation. Ce sont des versets très poétiques hein, qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Abel et Caïn, le livre de l'histoire de Noé. Il y a comme ça des petits versets, mine de rien, qui disent énormément. Et bizarrement, quand on lit ces textes, nous autres au 21e siècle, on ne fait pas attention à ce verset. Par exemple, le premier meurtre, Abel et Caïn, cette phrase qu'on trouve dans la Bible, Genèse, « Qu'as-tu fait ? Écoute, le sang de ton frère criait vers moi de la terre, car la terre a ouvert la bouche pour boire le sang du meurtre, et elle a crié vers moi. » Et en fait, on se dit, bon, c'est une expression poétique. Mais non, c'est une vraie réflexion sur le rapport qu'il y a entre la manière dont l'homme se conduit et le cosmos. Et avec cette idée que quand l'homme se conduit mal, le cosmos souffre et est déréglé. Et ça, c'est fondamental. Et c'est des trucs qu'on trouve, j'en ai trouvé au moins une vingtaine d'expressions différentes dans l'Ancien Testament. Alors là, je vous en ai présenté qu'une, sauf l'histoire de Noé, qui est très belle aussi, après le déluge. Et alors, après, je joue sur le mot « exaucement ». Vous vous souvenez de ça, hein ? Exaucement avec un H, qui veut dire « hausser, grandir, élever ». Donc, la nature veut s'élever. Et « exaucement », comme on exauce une prière. Et donc, la nature demande. Elle demande à rendre service. Et elle demande à louer Dieu. Et c'est ce qui me conduit, vous vous souvenez, à la beauté. La beauté est une louange au Créateur. Alors là, vous vous souvenez, j'avais fait un petit truc sur le jeu de mots grec. Alors là, ça existe déjà dans la philosophie grecque. Hein. Mais ça a été très, très repris par les médiévaux, kalos et kaleo. La beauté appelle. On trouve déjà ça chez Platon. Ça, c'est magnifique, cette histoire. Il y a des questions là-dessus ? Ou sur ce chapitre ?
Juste une remarque, moi, sur l'exaucement, là, justement. En fait, je comprends bien qu'on l'écrit EX et plus loin, je mets ossement, comme quelque chose qui se lève. Mais moi, dans ma tête, sur le coup, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que exhaustif, en français, le mot exhaustif, c'est donc H-A-U, on est d'accord ?
Oui.
Et c'est la même racine que exhausted en anglais, donc c'est épuisé.
Ah ouais.
Voilà, bon, j'ai juste pensé à ça, mais
ah, ouais, voilà, ouais. Parce que... En fait, c'est pas la même source indo-européenne, les Anglais et nous. Les Anglais, ça doit être une source saxonne, j'imagine. Ou je sais pas quoi, hein. Je connais pas assez. Et nous, c'est une source indo-européenne, quoi. C'est puis latine, qui veut dire grandir.
D'accord.
Vous savez, comme on dit souvent, enfin les archéologues disent ça, le sol a été exaucé. Le sol s'est exaucé, ça veut dire que les strates se sont empilées et le sol est monté. Ce qui arrive, vous savez, dans toutes nos grandes villes qui ont plus de 2000 ans, elles n'étaient pas à la même hauteur il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Le sol s'est exaucé. Voilà, donc, il y a une expression comme ça qui existe. Et donc, la terre, Gaïa, veut être exaucée, c'est-à-dire elle veut être grandie. Elle veut monter. Elle veut monter vers le service, vers la production de fruits, vers la beauté, vers Dieu. Et elle veut être exaucée, c'est-à-dire elle veut que l'homme soit le liturge. C'est extraordinaire.
C'est amusant, cette personnalisation de la terre.
Ouais. Alors d'ailleurs, François a commis un deuxième texte là-dessus, alors dont il n'a pas fait une encyclique. Parce que du coup, là, il utilise des mots. Il dit « La terre, notre mère ».
Oui.
Donc, c'est un deuxième petit ouvrage qu'il a écrit, c'est tout petit. Hein. Et dans « La terre, notre mère », en effet, il donne une quasi, je sais pas, personnalité à la terre. Hein. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, la terre n'est pas inerte. Enfin, c'est surtout ça qu'il veut dire. Il veut dire la terre n'est pas un objet inerte, mais elle a sa dignité, il faut la respecter. Évidemment, il ne fait pas de Gaïa une déesse.
Non, mais c'est pour ça que Dieu ne va pas laisser tomber la terre,
ouais,
et confie à l'homme donc de,
exactement,
de devenir le gardien du cosmos.
De devenir le gardien, voilà. Le veilleur, le gardien, ouais, tout à fait, et le pontife. C'est-à-dire, c'est par ces mots, par les mots de l'homme, que la création va pouvoir chanter. Par ces mots ou ces œuvres, d'ailleurs. Hein. Parce que là, je vous ai donné, vous savez, l'image générique en Géorgie, c'est typiquement ce que je crois de l'architecture sacrée. Vous savez que ce paysage étonnant, là, presque volcanique, puis pouf, une église magnifique au sommet. Et on voit bien, le paysage est transfiguré. En fait, le paysage ne demande que ça. Et l'église, les premières architectures arméniennes, syriennes, et jusqu'à l'époque romane, chez nous, ont cette vocation de se conjuguer à la louange du paysage. C'est fantastique, hein. Il suffit d'aller voir, vous le ferez cet été, parce qu'on va rester en France, je pense, cet été. Et donc, vous allez voir, il y a des... Les églises romanes sont toujours dans des paysages, ouais, et viennent en quelque sorte mettre le point d'exclamation sur le paysage.
C'est vrai.
C'est voulu, ça. Hein. C'est évidemment, c'est une conception du cosmos qui est de l'ordre de l'exaucement. Voilà, c'est bien. Et alors, en dernier chapitre, après Kaleo et Kalos, je donne... une méditation sur les bords du monde, là, c'est très intéressant. C'est l'autre vision médiévale, donc disons byzantine et médiévale. Alors, c'est du 5e siècle au 14e, qui sont restés platoniciens. Ils n'ont pas connu Hildegarde ni Bonaventure. Et pour eux, ce qui est derrière les choses, ce qui est sous nos pieds, ce ne sont pas les séquelles du paradis qui sont en train de rhizomer, mais c'est le chaos. Et eux, vous voyez, donc il y a les deux idées qui cohabitent à l'époque médiévale. Hein. Il y a ceux qui croient que sous nos pas, sous nos pieds, en creusant un peu, en cherchant bien, en lisant bien, on trouvera les séquelles du paradis. Et il y a ceux qui croient que nous sommes toujours menacés par le chaos. Et que la fonction de l'Église en particulier, la fonction des saints, la fonction des moines, c'est de garder le cosmos, de repousser le chaos. Et c'est la fonction du Mont-Saint-Michel. De même, c'est la fonction de Saint-Sauveur in Cora, comme je vous l'ai démontré. Vous connaissiez Saint-Sauveur in Cora ? Ah, il faut y aller, hein. C'est à 2 heures de Paris. Bon, il y a un impact carbone un peu conséquent, mais bon.
Oui, c'est ça.
si vous y allez en vélo, ça vous demande un mois. C'est ça le problème. Saint-Sauveur in Cora, c'est magnifique. Et donc, Saint-Sauveur in Cora était au bord entre la cité et le chaos, quoi, qui était le lointain, d'où viendra l'ennemi, qui n'a pas manqué de venir à Istanbul, à Constantinople. Pareil avec le Mont-Saint-Michel. Alors, le Mont-Saint-Michel, à l'époque, vous savez, la mer était redoutée. Parce qu'on pensait que la mer, c'était le bout du monde. D'où les appellations, vous savez, aussi bien en Espagne qu'en France, le Finistère. C'est-à-dire la terre finie. Et donc, il y a de quoi derrière ? Eh bien, il y a d'abord la mer, et ensuite le chaos. Et Saint-Michel, donc, était appelé avant Saint-Michel au péril de la mer. Parce qu'on croyait vraiment que la mer, c'était le chaos, quoi. C'était une sorte de minicie du chaos. Parce que d'ailleurs, les gens s'y noyaient. Et la mer ne rend pas ses morts, elle les dévore. C'est d'ailleurs, à l'époque, on navigue pas, hein. On fait du cabotage. Bon, enfin voilà, c'est des choses très intéressantes, tout ça.
Mais les images de la mer qui montent sur les rivages rappellent un petit peu ça, à l'heure actuelle. Ouais.
Ah bah oui.
Qui se met à tout remanger, ouais, alors que la terre avait été ouais, passée au-dessus des eaux, en fait.
Et puis, alors aujourd'hui, on ne se rend plus vraiment compte de cette mentalité médiévale, parce qu'on fait des croisières, on a des bateaux de plaisance, on nage dans la mer. Alors que du temps du Christ, on nageait pas dans la mer, hein. Et on faisait pas de la voile pour le plaisir. Et les pêcheurs redoutaient la mer. Souvenez-vous, les grands textes évangéliques, Jésus qui marche sur les eaux, la tempête apaisée. Et tout ça, c'est des signes qu'à l'époque, on redoute la mer. Elle est le chaos. Donc ça, c'est une vision très intéressante. C'est une vision également qui connote la nature. Alors, si vous voulez, donc, les deux positions, hein, cohabitent. C'est une nature chaotique ou bien une nature harmonieuse, Hildegard. Et puis, je finis avec quelque chose de très facile, là, pour le coup. Hein. Vous savez, c'est la manière dont la liturgie, l'architecture, la sculpture, l'art chrétien a intégré la nature dans la liturgie. Donc ça, c'est des choses que vous saviez, vous avez tous visité. Les églises en France, c'est très, très présent. Presque partout. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. En Allemagne.
J'avais une question qui est peut-être un petit peu pas très fondée historiquement ou scientifiquement. C'est quand vous parlez de ces deux écoles au Moyen-Âge, de dire que la nature, c'est les réminiscences du paradis, ou au contraire, sous la nature, il y a le chaos. Oui. Moi, ça me fait penser à deux manières de voir le monde aujourd'hui. Je trouve que parmi les chrétiens, notamment, il y a un peu deux manières de voir le monde. Soit on y voit le lieu où peut germer la création, l'esprit, la oui, vie. Soit on y voit le lieu qui est complètement dépravé et qu'il faut sauver.
Tout à fait.
Frère de l'art.
Enfin, oui, tout à fait. À ouais. En fait, ces deux tendances ont toujours existé dans l'Église. Et donc, je pense qu'elles existeront toujours. Et ça s'entend dans les prédications, vous savez, des prêtres. Il y en a qui parlent toujours du mal, du péché. Ils cherchent toujours à conclure leurs homélies en disant « Donc, il faut vous convertir, bonnes gens, il faut regretter vos péchés, il faut changer de vie, etc. »
Moi, ça et d'autres... fait plutôt fuir, ça.
Oui, moi, je crois bien, oui. Mais bon, et d'autres qui prêchent au contraire en disant « Mais il faut savoir voir la présence du Christ. » Alors, ceux-là, ils sont dans la ligne de la création continuée. Et en plus, le Christ qui l'a bel et bien dit, hein, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, je vous enverrai l'Esprit Saint. » Donc, voilà, je crois que c'est quand même ça, la position la plus juste. Mais ça a toujours existé. Hein. Déjà, comment il s'appelait, Socrate. C'est donc Platon qui le rapporte, parce que Socrate n'a rien écrit. Mais Socrate, déjà, se plaignait des gens qui se plaignent. Il disait, mais c'est fou, le monde est beau, on est en paix, on mange, il n'y a pas la guerre, et il y a des gens pour trouver ça mal. Ça n'a pas changé.
Peut-être que je vois les choses en noir, mais j'ai l'impression que cette tendance-là, elle augmente plutôt en ce moment dans l'église.
Oui, elle augmente, je pense, depuis une petite dizaine d'années. Ouais. Moi-même, j'enseigne au séminaire, à la catho aussi. Bon, à la catho, c'est pas sensible, mais au séminaire, c'est très sensible. Cette tendance-là gagne.
On peut la résumer aussi en disant, soit on voit l'homme d'abord à l'image de Dieu, soit on le voit d'abord pécheur.
C'est ça. Oui, c'est ça. Or, il n'est pas d'abord pécheur. Alors, si vous êtes des auditeurs habituels du CIF, là, parce que je sais, parmi vous, il y en a qui finissent le cycle, et puis il y en a qui sont venus juste pour ces quatre soirées. Alors, si vous finissez le CIF, vous vous souvenez probablement que dans le cours d'anthropologie, c'est quelque chose sur lequel on insiste. Donc, c'est le troisième cours de la première année. En disant, ce qui est premier, c'est la création. Ce qui est premier, c'est la grâce. C'est pas le péché. C'est-à-dire, le Christ se serait fait homme, même s'il n'y avait pas eu le péché. Il serait devenu notre compagnon, alors d'une autre manière.
Comment vous pouvez me dire, Comment pouvez-vous dire cela?
Alors, c'est tout un grand débat de Duns Scott au XIIe, XIIIe siècle et de saint Thomas d'Aquin. C'est parce que, alors, l'argument de Duns Scott, c'est de dire, si Jésus s'est incarné à cause du péché, c'est donc le péché qui a créé Jésus.
Voilà.
Donc voilà, c'est ça, si vous voulez, très rapidement, hein, parce que bon, c'est plus subtil. Mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Et alors, il conteste ça et il se dit, mais de toute manière, Jésus est de toute éternité Dieu qui se donne. Voilà, et même s'il n'y avait pas eu le péché, Dieu se serait donné par la seconde personne de la Trinité. Alors, ce ne serait pas Jésus de Nazareth.
C'est ce que dit Teilhard de Chardin aussi.
Ah, oui, je ne savais pas qu'il disait ça.
Il a des pages magnifiques là-dessus.
Sur ça ne m'étonne pas. Hein.
Dieu, le Christ pensé de toute éternité,
oui.
Avant même que l'homme ne soit pécheur.
Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas étonnant de la part de Teilhard. Oui. Ouais. Il est tout à fait dans cette lignée. Ouais. Alors lui, il sait voir le travail de l'esprit en toute chose.
Hein. Oui.
Oh là là, même dans la matière la plus inerte.
Dans la pierre, oui.
C'est ça, il dit qu'il y a une pellicule d'esprit dans la chose la plus inerte. Oui. C'est génial. Hein. Oui. Ouais, Teilhard, alors je l'enseigne un petit peu au séminaire. Ça plaît.
On n'en parle pas beaucoup quand même.
Non, mais il a été remis à l'honneur par le pape Benoît XVI.
Oui, un peu quand même. Oui.
Ouais, c'est intéressant. Hein. Bon, ben voilà, écoutez, c'est bien tout ça.
Ouais. Oui, j'ai été surpris en fait sur les dernières parties, sur la liturgie cosmique, parce que ça ne me disait rien du tout dans le Laudato Si. J'avais pas l'impression que ça avait été abordé dans l'encyclique. Donc je suis allé voir, par curiosité, j'ai vu que tout à la fin, il y a quelques petites choses là-dessus. Il y a notamment une citation de Saint Bonaventure donc, qui nous ramène
un peu,
et qui dit « La contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même, donc il y a l'aspect de sentir, l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. »
C'est ça.
Donc, c'est... Mais j'avais pas du tout conscience de ça, que c'était présent dans le.
Ça l'est pas énormément hein, dans l'encyclique, mais ça fait partie de la tradition de l'Église et le pape François en parle souvent, surtout quand il parle. Vous savez, il a créé une journée de la création en septembre. Et à cette occasion, il a fait déjà trois années de suite là. Il a fait des petits enseignements. Donc, il n'a pas voulu que ce soit le statut d'une encyclique, c'est juste des enseignements du jour. Et il revient beaucoup là-dessus, sur ces aspects de la louange que nous devons, qui doit passer par nos lèvres, parce que la nature elle-même ne peut pas le faire, ne peut plus le faire. Bon, ben voilà. Alors, pour certains d'entre vous, c'est le dernier cours, c'est triste.
Oui.
Pour le CIF, c'est triste. Mais vous savez qu'il y a encore une réunion avec le frère Isaiah. Pour ceux qui finissent leur cycle, vous allez recevoir le lien. Hein. Je crois que c'est la semaine prochaine.
Oui.
Et j'y serai. Donc, il y a...
C'est mardi prochain.
Autres, ben, je vous invite beaucoup, les autres, à vous inscrire au CIF, de manière à faire le parcours complet. Mais oui, il faut faire de la pub. Bon, ben.
Oui, moi je voulais dire aussi, parce que moi j'ai fait le CIF il y a quelques années.
Oui.
Une fois qu'on a terminé, on peut aussi continuer avec les groupes bibliques. Voilà.
Oui, il y a les groupes bibliques avec Roselyne. Ouais. Et puis, on peut aussi s'inscrire aujourd'hui à un cours. Bon, il vaut mieux faire le parcours complet sur 2 ans. Mais c'est possible, comme un certain nombre d'entre vous l'ont fait avec ces 4 cours, il est possible de s'inscrire au cours d'anthropologie ou au cours de la révélation, ou bien celui de christologie que je fais. C'est une autre manière d'entrer, en fait. Un peu plus libre. Allez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon été.
Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Merci bien. Bonne soirée.
Ciao.
À la semaine prochaine.
Au revoir. Un autre jour. Oui.